Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo avec vous, ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Comme chaque semaine, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Roger Stéphane est en direct depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Roger, bonsoir.
Bonsoir Yacouba Ouédraogo et bienvenue à Abidjan.
Et donc d'ici là, on va retrouver Thierry Kambouni de Top Congo FM à Kinshasa et Amdine Si depuis l'Égypte, donc au Caire, et Amine Birouk depuis Casablanca ne sera pas avec nous ce soir, il est en train de commenter le match Ghana-Tunisie pour sa radio, Radio Mars. Et puis, on va souhaiter un prompt rétablissement à Élisée Mpatine depuis Boyukon, Élisée qui ne se sent pas super bien. Le dernier match des huitièmes de finale donc vient à peine de commencer. Ça se joue entre le Ghana des frères Ayou et les aigles tunisiens de Carthage. La Côte d'Ivoire, elle, a rejoint l'Algérie en quart. Les éléphants ont battu le Mali 1-0 en huitièmes de finale à Suez et affronteront les Fennecs algériens donc en quart jeudi. Ils ont peiné pour écarter les aigles auteurs d'une belle phase de poule, dominateurs en première période. Les Maliens ont été solides jusqu'à la 76e minute et le but du milieu offensif Wilfried Zaha, son deuxième dans la compétition. Alors, Roger, Stéphane, les éléphants n'ont pas très bien joué, mais l'essentiel est fait pour les Ivoiriens.
Oui, vous avez exactement et bien résumé d'ailleurs ce match-là face aux aigles du Mali. C'est vraiment difficile de parler des éléphants de Côte d'Ivoire. Ils sont parfois très, très pénibles. On a vu une première période très, très difficile pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui ont bien entamé le match, comme c'est leur habitude d'ailleurs. Ce fut le cas face au Maroc, ce fut le cas face à la Namibie et face à l'Afrique du Sud. Et puis, après, arrivent les difficultés. D'abord, le manque de récupération de balles dans le milieu du terrain, avec Bamé et Kessier, trop lourd, trop lent, et puis Seredi est un peu vieillissant. Ensuite, on a le mauvais placement défensif de Wanlo Koulibaly et Bakayoko, les deux latéraux qui ont énormément mais souffert face aux ailiers maliens. Et puis, à cette attaque à trois, dans laquelle il n'y a pas vraiment de débordement et de centre à retrait pour l'avant-centre, trop de longs ballons mal négociés par moment. Oui, c'est une équipe ivoirienne qui a souffert et qui nous a donné des sueurs froides ici à Abidjan. Et puis derrière, il y a l'autre visage, la sérénité, le calme, une équipe qui est sûre de ses forces, qui joue sans paniquer, qui attend son heure, qui sait profiter de cet enfant. Ça a été le cas avec le but donc, de Wilfried Zaha, vous l'avez dit à la 76e minute. Une équipe qui sait s'appuyer sur ses individualités. Beau Sylvain, le portier qui a été bonne fois de plus. Zaha, le buteur qui a sauvé l'équipe. Et puis l'équipe à la baraka des grandes équipes, c'est ça. Elle n'est pas belle, mais elle est efficace, elle est costaud. Elle revient de loin. À mon avis, ce sont les aigles du Mali qui ont offert la qualification aux éléphants de Côte d'Ivoire. Les Maliens étaient excellents dans ce match, mais comme on le dit, dominer n'est pas joué, une équipe n'est pas gagnée, pardon, une équipe ivoirienne qui joue très très mal, mais qui va à l'essentiel, qui marque des buts et qui lentement et sûrement est en train d'aller très loin dans cette compétition. Comme l'a dit quelqu'un, ça ne sert à rien de bien jouer comme le Maroc et se faire éliminer, ça ne sert à rien d'être costaud comme les Égyptiens et se faire éliminer. On peut jouer mal et aller de l'avant, et les éléphants sont en train de donner une bonne leçon de football à tous les observateurs du ballon rond.
Alors, Jules, on a vu cette équipe malienne dominatrice, mais qui n'a pas réussi quand même à concrétiser ses occasions. On sait aussi que c'est la formation la plus jeune de cette CAN-là. Est-ce que les Maliens ont payé peut-être leur naïveté ou encore leur jeunesse?
Bien sûr, l'équipe est très jeune et en plus, elle a adopté un football qui n'est plus très courant au Mali depuis quelque temps. Vous savez, il y a toujours une présentation ambivalente du football malien, avec d'un côté des très bons techniciens, très vifs, le plus souvent de taille moyenne, et de l'autre côté, les grands gabarits qui, généralement, sont là surtout pour contrer et briser le jeu des adversaires. Mais c'est la deuxième tendance qui fait souvent des résultats. La première, celle des techniciens, fait du beau jeu, mais finalement, n'arrive jamais au bout. Et on a eu encore ce résultat ce soir, et en voyant que le Mali a fait le jeu comme on s'y attendait, avec ces jeunes footballeurs qui nous ont éblouis depuis le début de la compétition, mais il n'y a pas de réalisme, et faute de réalisme, ils ont fini par payer, comme d'ailleurs la plupart des équipes joueuses depuis le début de la compétition, que ce soit l'Égypte, que ce soit le Maroc, que ce soit le Cameroun et consorts, qui nous ont présenté le plus souvent un beau football, mais en fin de compte, ont manqué réellement de réalisme.
Nous revenons sur les huitièmes de finale jouées avant ces deux rendez-vous de ce tour. On n'arrête plus les barrières. Madagascar novice à la Coupe d'Afrique des Nations est en quart après avoir éliminé la République démocratique du Congo au tir au but. 2-2 après les prolongations, 4-2 pour Madagascar pendant la séance donc fatidique. Sous les yeux du président malgache Ange Radjoel qui avait affrété un avion spécial pour les supporters, nous retrouvons Jonathan Massiala de Top Congo FM pour le point de ce match Madagascar-RDC.
Les Bahriens de Madagascar poursuivent leur folle aventure à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Devant leur président André Rajoelina, présent au stade d'Alexandrie, les hommes de Nicolas Dupuis ont dû avoir un mental d'acier pour éliminer les Léopards de la RDC hier en huitième de finale en remportant la séance de tir au but 4 contre 2, ce après s'être fait rejoindre deux fois au score par les Congolais qui ont arraché le nul de 2-2 à la dernière seconde du temps réglementaire.
Je tiens surtout à féliciter mes joueurs parce que ça a duré longtemps. En plus, on subit une égalisation à la dernière seconde du temps réglementaire. Et moralement, ça peut nous tuer. On veut simplement prendre du plaisir et en donner.
Les Malgaches vont connaître leur adversaire de quart de finale ce lundi à l'issue du dernier huitième de finale qui mettra aux prises le Ghana et la Tunisie. Des retours d'Alexandrie, Jonathan Massiala de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Et ce dernier huitième de finale est en cours. Je rappelle que c'est toujours 0-0 entre Tunisiens et Ghanéens. C'est la troisième défaite pour les Léopards en 4 matchs de CAN. Des décisions vont peut-être tomber et le coach en est conscient. On écoute Florent Ibengué.
Il nous a manqué cette concentration qui fait qu'on a encaissé très tôt. Ça a permis justement à cette équipe malgache d'y croire un peu plus et nous de courir après le score. Donc ça finit par user. Je crois que pour toute cette lecture, il faudra se mettre de façon posée et pas réagir à chaud comme ça. Mais c'est vrai que tout est possible. On va s'asseoir, je crois que j'avais déjà dit avant, ça en fait 3, c'est beaucoup. On va s'asseoir tranquillement, on pourra prendre la décision tranquillement.
Alors Thierry, on ne sait pas si des décisions sont tombées, mais du coup, que retenez-vous de la prestation des Léopards à cette CAN?
Je retiens qu'elle était mieux que lors de leur précédente rencontre, en tout cas pas mieux contre que celle du Zimbabwe, parce que face au Zimbabwe, ils ont été plus réalistes, mais là, ils ont fait preuve de beaucoup de combativité. Il faut dire que les Baréas ont démarré le match pied au plancher en inscrivant un but dès la 9e minute de la rencontre, car ils ont d'entrer à attaquer la République démocratique du Congo et assiéger le camp des Léopards. Ça leur a assuré avec ce but, qui est l'un des plus beaux buts d'ailleurs pour le moment de la compétition. Mais les Léopards ont su réagir une dizaine de minutes plus tard, par la suite, sur une erreur. Justement, après réajustement tactique de Florent Ibengué, une erreur, une perte de balle de Yannick Bolassier qui a coûté au Léopard un deuxième but. Ils ont également réagi avec ce but à la Sergio Ramos à la 89e minute du capitaine Chancel Mbemba. Ça m'a rappelé un peu, j'ai parlé de Sergio Ramos, ça m'a rappelé une finale de Champions League entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid, justement. Bref, les Léopards sont bien revenus et pendant la période de prolongation, c'est eux qui avaient largement dominé le débat avec quelques erreurs d'arbitrage qu'il faut également mettre à l'actif de cette rencontre. C'est déplorable car les Léopards devraient en principe bénéficier de deux pénalties flagrants que l'arbitre marocain n'a pas sifflé du tout. Bref, à la loterie, il a manqué de concentration côté Léopard de la République démocratique du Congo. On avait déjà vu que les Malgaches avaient tellement donné que pendant les prolongations, ils ne faisaient que gérer, justement, contenir les assauts des Léopards pour les amener jusqu'aux prolongations, parce qu'ils s'étaient mieux préparés que les Léopards. Ils étaient plus concentrés, ils étaient plus posés, alors que de notre côté, Yannick Bolassier et Marcel Tisserand ont mis les ballons dans les gradins. Donc globalement, les Léopards n'ont pas démérité sur ce match, mais il y avait trop d'erreurs en termes d'organisation, des choix discutables, etc. Autour de l'équipe nationale, il n'y avait pas la sérénité nécessaire pour aller jusqu'au bout. Vous avez posé la question tout à l'heure de savoir si les décisions sont tombées. Il faut les prendre à froid, justement. L'équipe va regagner à Kinshasa demain, si on fait prévu. Les joueurs iront en vacances. Mais le sélectionneur principal, son staff ainsi que la fédération et le ministère des Sports doivent s'asseoir pour discuter. Mais je crois que ce match, et lui-même l'a rappelé, était probablement le tout dernier de Florent Ibengué, 5 ans après son avènement à la tête de l'équipe en septembre 2014, 4 ans après, je crois que c'est on va plutôt penser à autre chose. Il est arrivé en fin de cycle et beaucoup de choses autour de l'équipe doivent être refaites et même au sein de la fédération, car ces Léopards ont connu énormément de problèmes depuis leur stage de préparation à Marbella jusqu'à cette participation difficile à la CAN 2019.
On attendra donc de voir, et Thierry Kambouni nous donnera sans doute des nouvelles, Siliana. En face du côté de Madagascar, c'est la sérénité, ce n'est que le début, nous dit le coach malgache qui souhaite quand même aller le plus loin possible dans cette CAN. Nicolas Dupuis.
On veut aller le plus loin possible, on veut continuer ce rêve éveillé, on veut simplement prendre du plaisir et en donner. Et c'est le mot d'ordre, de toute façon c'était une des affiches et mon dernier mot de mon briefing d'aujourd'hui, le plaisir. Le plaisir qu'on prend et le plaisir qu'on donne à nos 25 millions de Malgaches, c'est merci. Simplement ça.
Alors Jules, est-ce finalement le secret des Malgaches, jouer sans pression et se faire plaisir?
Mais bien sûr, ils sont à l'aise dans cet exercice, ils n'ont pas de pression. Bien sûr, et s'ils n'ont pas de pression, et qu'est-ce qu'il restera à faire? Il faudra tout simplement jouer au football. Et c'est ce qu'ils font très bien. Mais seulement, le seul problème est que la profondeur du banc, à un moment donné, peut les rattraper. Et je ne sais pas pour les matchs décisifs qui vont venir avec, disons que, les rencontres intenses qu'ils ont eu à mener sous un climat particulier, je ne sais pas s'ils tiendront réellement à fond.
Absolument. En attendant, le sélectionneur de Madagascar, Nicolas Dupuis, qui disait en conférence de presse qu'il a utilisé 18 joueurs sur les 23 jusque-là, et il craignait justement pour cette profondeur de banc-là, lui qui a joué 120 minutes, on va le rappeler, pour sortir la RDC, et donc du coup, physiquement, les joueurs prennent un coup. Alors, Amdine Sy est en direct depuis l'Égypte, je suppose que vous êtes OK. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Alors, c'est vrai que cette formation malgache découvre la compétition, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est l'équipe qui détient la plus grande moyenne d'âge, 28,7 de moyenne d'âge. Cela explique peut-être en partie leur sang-froid dans certaines situations et leur maîtrise des rencontres, Amdine.
Tout à fait, vous avez raison Yacouba. Et puis, il faut reconnaître également que cette équipe malgache n'a rien à perdre, hein. Sinon, tout a gagné. C'est une première participation, une participation historique. Ils jouent sans complexe, hein, et ils ont des joueurs très expérimentés, comme le joueur de Lyon, Morel. Donc, c'est des joueurs expérimentés. Et à chaque fois qu'ils jouent, c'est comme ça. Moi, je me rappelle de mes premiers matchs contre le Sénégal à Antananarivo. Il avait joué sans complexe face aux stars du Sénégal et ils avaient tenu les Lyons en échec sur le score de 2-2. Donc, c'est leur force. Ils sont free. Ils jouent relax comme ça et ils parviennent quand même à faire de bons résultats. Je pense que, comme vous l'avez dit tantôt, des joueurs expérimentés, la confiance règne dans cette équipe et bon, ils parviennent à avoir des résultats. Je pense que c'est non seulement la surprise de cette CAN, mais les Malgaches peuvent aller loin. J'ai même entendu le président dire que les Malgaches vont gagner quand même cette Coupe d'Afrique des Nations. En football, rien n'est impossible. Ils ont déjà atteint leur objectif. Maintenant, tout ce qui va arriver, ce sera la cerise sur le gâteau, Yacouba.
Merci, Amdine Sy. Vous suivez Sporama, suivez OA Afrique. L'émission revient tout de suite. Toujours hier, l'Algérie a assumé son nouveau statut de favori en maîtrisant la Guinée 3-0 en huitième pour se qualifier donc pour les quarts de finale. Alors, Roger Stéphane, le coach algérien, Djamel Belmadi, a pendant longtemps refusé ce statut de favori, mais là, on dira que les Fennecs ne peuvent plus se cacher.
Oui, sur l'ensemble de la compétition, le gros favori en ce moment, c'est bien cette équipe de l'Algérie qui a fait sensation hier face aux Guinéens, mais qui a fait sensation derrière, hein, sur l'ensemble de la compétition. Aucun but encaissé depuis le début du tournoi. Les Algériens ont été un peu embêtés, un peu nerveux sur le début du match. Et puis le rouleau compresseur s'est mis en marche. Une équipe qui joue bien, un jeu simple, varié, des passes longues, des passes courtes. Un football fluide, hein, mais bien organisé, à la fois un jeu collectif avec de formidables individualités. Une équipe très très solide derrière qui n'a plus aucun but, je l'ai dit, depuis le début de la compétition. Les lignes sont bien resserrées tactiquement. L'équipe a fait déjouer tous ses adversaires. Le Sénégal a eu des difficultés face à cette équipe algérienne lors de la phase de poule. La Guinée sur ses huitièmes de finale. C'est une équipe simplement impressionnante. À mon avis, c'est l'équipe à craindre. Après la sortie du pays organisateur qui est l'Égypte, après la sortie du Maroc qu'on avait vu, qui avait été mais flamboyant sur le début de compétition, je pense qu'en ce moment, avec le Nigeria, cette équipe algérienne qui était outsider dès le départ, derrière l'Égypte, le Cameroun et le Sénégal, eh bien l'Algérie se présente aujourd'hui comme l'un des favoris, sinon le favori de cette compétition. C'est une équipe complète avec un excellent entraîneur qui lit bien le jeu, qui place bien ses joueurs. C'est une formidable machine à gagner qui jusque-là a écrasé tous ses adversaires. Et vous avez raison, les éléphants vont avoir du mal face à cette équipe algérienne lors des quarts de finale. Il va falloir changer beaucoup de choses dans le jeu des Ivoiriens si on veut voir le jour face à l'Algérie de Belmadi.
Samedi toujours, le Camerounais a abandonné sa couronne dès le 8e, éliminé par le Nigeria 3-2. Alors Jules, on ne cherchera pas des poux sur la tête de qui que ce soit, comme on le dit. Mais on s'interroge toujours quand même sur la touche du coach Clarence Seedorf dans cette équipe des Lions Indomptables.
Oui, franchement, là c'est la défaite du coach pratiquement. Et ça relève également du fait que on a vu le coach tourner l'effectif en permanence, même quand lorsque ça marchait, alors que c'est connu au niveau de la CAN, de la phase finale. Mais la phase de poule est faite pour renforcer le collectif et les automatismes. Mais à force de changer les attaquants, il a donné une assise un peu moins sûre à l'équipe. Mais pourtant, les joueurs sont très bien rattrapés en première mi-temps. Ils ont retrouvé leur jeu. Mais le changement de Mandek à la 32e minute, qui est le libéro de la défense et qui ferme tout avant que la défense ne reçoive le poids du match, a entraîné une catastrophe. Dès qu'il sort, en 2 minutes, 2 buts rentrent et de la même manière, toujours par l'axe. Donc, c'est clair. Il y a eu un coaching défaillant à ce moment-là et les Nigériens ont eu l'intelligence de profiter rapidement de cette défaillance pour inverser le score. Donc je crois que la responsabilité de l'entraîneur est assez grande.
Alors Thierry, le Cameroun a certes réussi à se sortir de la phase de poule, mais les Lions Indomptables n'ont pas non plus été flamboyants.
Ils n'ont pas été flamboyants. Personnellement, j'ai été un peu déçu de leur parcours durant cette Coupe d'Afrique des Nations. On en attendait beaucoup, logique, pour tenant du titre. Mais je n'ai pas senti, il est vrai que physiquement, techniquement, le Cameroun a toujours fait partie des meilleures équipes du continent. Mais je n'ai pas senti en eux cet esprit de groupe, d'équipe, et la détermination, la rage de vaincre qui les a caractérisés lors de la précédente édition il y a 2 ans. Donc il a manqué un peu de jus dans cette formation. Je rejoins Gilles pour dire également que j'ai eu l'impression que Clarence Seedorf était toujours en train de tâtonner, en train de chercher la bonne formule, qu'il n'avait pas trouvé malgré les éliminatoires, qu'il n'avait pas trouvé malgré le premier tour, avec tous ces changements qu'il a eu à opérer, qui n'ont pas permis à l'équipe de se stabiliser véritablement. Mais il a manqué cette âme traditionnelle au Camerounais, cette détermination, cette force, cette rage de vaincre, surtout lorsqu'ils ont eu à courir derrière le score. Bref, l'équipe du Cameroun a beaucoup manqué et le coaching également a fait qu'ils puissent lâcher du lest et surtout perdre leur couronne dès l'étape de 8e de finale.
Le véritable coup de tonnerre est intervenu samedi avec l'élimination du pays hôte, l'Égypte, donc grande favorite chez elle, avec sa superstar Mohamed Salah tombé en 8e de finale face à qui? L'Afrique du Sud donc. Alors Hamdine, les pharaons quittent la compétition, la tête basse, dans un scénario quand même rarissime, même si cette CAN-là nous a habitués à des surprises.
Tout à fait, ce fut un tremblement de terrain, il faut le reconnaître. Personne n'osait parier sur les Bafana Bafana, mais en football tout est possible, et les Bafana Bafana ont bien joué ce coup. Ils ont non seulement tenu la dragée haute au pharaon d'Égypte, mais ils ont fait un excellent match, et en marquant au bon moment, à 5 minutes de la fin, pour pouvoir remporter ce match. C'est vraiment une surprise puisque l'Égypte a un peu quand même bien démarré cette compétition avec 3 matchs, 3 victoires. Il n'avait pas encore encaissé de but, mais comme je l'avais dit, à partir des 8e de finale, c'est une autre compétition qui commence en des matchs à éliminatoire direct, des matchs couperés.
il faut les négocier. Et les Sud-Africains l'ont bien négocié pour sortir quand même les pays hôtes. Mais c'est une grande surprise. Et vous l'avez dit tantôt, Mohamed Salah, qui est la star de cette équipe égyptienne, n'a pas tiré son épingle de jeu durant cette rencontre. D'ailleurs, les supporters sont très mécontents envers le star, mais c'est comme ça, on ne peut pas briller tout le temps. En tout cas, l'Afrique du Sud, après le Madagascar, a réussi vraiment un coup de tonnerre sur cette Coupe d'Afrique des Nations.